Amis trésistes du soir, bonsoir. Nous voilà ce soir à Ille-sur-Tête chez l'ami Klaus Perkovic, ancien joueur du 13 catalan, du Pia notamment, qui fait le plaisir de nous recevoir, qui se cache derrière son comptoir, car il ne veut pas parler, mais on arrivera à l'attraper. Alors donc, autour de la table, évidemment, les fidèles piliers, la première ligne incontournable, avec Louis Bonnery, le président de la Ligue Languedoc-Roussillon, Hervé Guiraud, le secrétaire général de la Fédération, en pilier, on peut les applaudir. Un talonneur aura le tenu avec qui rien ne passe, en l'occurrence notre ami Olivier Gondran du Dragon de la Tête.
Bonsoir messieurs.
Intransigeant derrière le tenu. Une belle seconde ligne avec Pascal Jampi, ancien international et joueur des Dragons catalans. Bonsoir. Et puis l'homme de toutes les intervalles, en l'occurrence René Montala, toujours aussi gaillard, toujours solide aux avant-postes. René, bonsoir.
Allez, bonsoir.
Bernard Rion qui nous fait le plaisir d'arriver à la seconde. Bernard Rion, ancien international et joueur du 13 catalan notamment.
Et début d'ouverture, c'est voilà. Temps perdu.
Début d'ouverture quand il était plus jeune, effectivement, qu'il a oublié d'ailleurs. Jean-Marie Bousquet, président de l'Amicale Saint-Cyprien.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Jean-Marie. Et Alain Forge, un catalan réunionnais, comment on dit, réunionnais et catalan ou l'inverse? On commence par quoi? Ah voilà, donc un catalan de la Réunion, donc expatrié, voilà. Ouais. Et qui est un amateur de rugby à 13 qu'on connaît maintenant depuis que la Super League existe.
Oui. Et à noter le retour d'Alain Bonnerias qui était en vacances sous les cocotiers. Monsieur Bonnerias, bonsoir.
Bonsoir, oui.
Et à remercier le nombreux public qui est venu aïe chez Klaus. Ouais.
D'accord, oui. J'étais à Mayotte et Madagascar pour essayer d'implanter le rugby à 13, mais c'est compliqué. Hein. Le 15 a déjà pris toute la place. Mais enfin, il faudrait y revenir. Alors on va commencer par quelque chose qui fâche, c'est-à-dire un début de saison plutôt poussif, voire indigeste de la part des Dragons. 6 matchs et une seule victoire, dont le bilan est squelettique. C'est dû à quoi autour de moi? Qui peut répondre? C'est dû à quoi? Est-ce que quelqu'un a la recette? Est-ce que quelqu'un a...
Moi, j'ai bien envie de faire parler Pascal, parce que là il y a un vrai pro et au moins on aura un avis de professionnel.
Pascal Jampi.
Non, c'est juste faire passer un message aux supporters. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui sont mécontents. Et c'est vrai, vu les résultats. Mais je crois qu'il faut croire en cette équipe. Il faut être supporter jusqu'au bout. Ça fait tout juste. C'est une équipe jeune, un club jeune. Éloigne-toi un peu, Pascal. Voilà, donc. Et c'est vrai que les joueurs, le staff a sa part de responsabilité. Mais nous, il faut qu'on pousse derrière cette équipe, sachant qu'il y a beaucoup de blessés en ce moment et c'est toujours difficile. Et quand on est dans la spirale de la défaite, il faut espérer que cette équipe va rebondir pour pouvoir repartir sur une base plus solide.
Alors, maintenant, pardon, est-ce que tout le monde pense que cette équipe a les moyens de rebondir? Est-ce qu'on a les joueurs pour? Est-ce qu'on a la stratégie de jeu pour? Est-ce qu'on a le coach pour ça? Le mal vient d'où selon vous? Bon. Hervé, Louis, Olivier, peu importe.
Bon, le coach, moi ce qui me dérange chez le coach, c'est que tu t'aperçois que les joueurs qui ont été formés à des postes bien précis, comme Tony Gigot, le pauvre pour un baptême du feu là, à Crusaders, on le fait jouer talonneur alors qu'il est demi d'ouverture. Tu fais jouer après des joueurs le petit Gouache, tu le fais jouer à l'arrière alors qu'il a toujours joué, il a été formé à l'ouverture, il joue à l'arrière, on a vu qu'il était complètement déboussolé le pauvre jeune, c'est pas de sa faute d'être perdu comme ça au début du match. Non, il faut faire jouer les joueurs à leur poste, on espère, je crois que beaucoup de supporters souhaiteraient voir Maguire revenir au talon et puis avec une charnière Thomas Bosque qui va rentrer samedi, avec le petit Gigot à l'ouverture et puis on verra ce que ça donne et tu remets ça au centre, son poste de... pour lequel il a été recruté.
Alors l'axe central, donc 9-7-6, c'est a priori de là que vient le problème. Est-ce que, Louis, est-ce que toi qui as joué au plus haut niveau, il y a fort longtemps, ma foi, mais qui maîtrise largement le sujet, ou Hervé qui a joué l'ouverture il y a très longtemps également, et Klaus, n'en parlons pas, c'est aussi très très loin.
Mais on est trop jeune.
Est-ce que selon vous, le mal-être de cette équipe, ce malaise collectif, viendrait justement de cet axe central 9-7-6?
Moi je pense pas, je pense qu'il faut pas responsabiliser ni mettre des noms sur la situation globale parce que c'est un problème avant tout collectif que connaît l'équipe des Dragons catalans. Bon d'abord il y a eu un calendrier qui a priori était très compliqué. Qui a été construit un peu à la demande aussi des Dragons pour des raisons de stade, etc., qui a fait que cette équipe n'a pas joué devant son public, elle a eu à se déplacer, Et quand on connaît évidemment les difficultés des déplacements en Super League, ça a rendu la première prestation à domicile compliquée, qui s'est encore plus compliquée avec l'expulsion de Lima, un match qui était très bien parti face au public. Donc c'est une équipe qui s'est enfermée dans une sorte de situation chronique dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Donc à partir de là, la moindre chose prend beaucoup d'importance. Alors en ce qui concerne les positions de joueurs, bon, moi je suis pas entraîneur, il doit avoir ses raisons. On a bien entendu Mick Potter, vous y étiez Alain, nous dire qu'il plaçait le talonneur qui joue à Palo maintenant, pardon.
C'était Lionel Teixidó, effectivement.
Lionel Teixidó, qui le plaçait à l'ouverture parce qu'il jouait bien des deux pieds. Donc l'analyse des entraîneurs peut être différente des nôtres. Donc je pense que ça ne vient pas de là. Je pense que Walters fait confiance à une ossature de joueurs qu'il connaît et qu'il maîtrise, et qu'il hésite, et c'est peut-être là une erreur de sa part, je ne sais pas, mais il hésite à lancer vraiment dans le grand bain, à leur poste, les jeunes joueurs qui finalement, à mon avis, n'ont plus rien à perdre, ni le club, ni ses joueurs, ni lui d'ailleurs, d'essayer quelque chose pour essayer de renverser le problème collectif qu'a cette équipe. Voilà, donc je crois... Pas de débat sur des personnes, mais restons sur le problème collectif.
Moi, je vois qu'à côté de moi, à l'Infor, j'ai pris des notes. Donc,
deux, trois notes, oui. Non, moi, si on parle plus général, c'est vrai qu'il faut mettre les joueurs à leur poste. Hein, parce que, bon, ça, c'est pas un ouvreur. Il faut maintenant le mettre là où il est le mieux, soit centre, soit deuxième ligne. Et parce qu'on arrive, depuis le début de l'année, à avoir un jeu qui engendre une monotonie. Et l'équipe n'arrive à une impuissance à se sortir de cette monotonie. Et là, on ne peut pas changer le cours des choses en continuant à jouer comme on joue actuellement. C'est-à-dire, je parle du jeu d'équipe.
Bon, donc c'est un problème d'entraîneur, finalement. Faut dire plein chat un chat.
Bah, écoutez, c'est un problème d'entraîneur peut-être, mais il y a aussi un problème de joueur. Bon, parce qu'entraîneur, quand même, il n'est pas sur le terrain. Mais enfin, pour en revenir à Walters, parce que c'est bien de lui qu'on parle ce soir, il est au milieu du feu d'action, parce que ce garçon, aujourd'hui, on a l'impression... franchement, qu'il ne met pas les joueurs en place. Ça, c'est l'avis de tout le monde. Oui. On a l'impression de voir Tony Gigot, numéro 9. Moi, je suis très étonné pour un premier match. Bon, on a joué, il pleuvait énormément. On jouait au Pays de Galles avec un temps à l'anglaise. Très peu de ballons tombés, c'est vrai. Deux essais, ma foi, qui peuvent être encore discutables selon la vidéo. Hein. Bon, on ne va pas refaire le procès à l'arbitre qui a été très bon aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Je ne sais pas. Bon, moi, j'ai reçu cette semaine un mail de Michael Douf, que vous connaissez tous, ancien entraîneur de l'équipe de France, qui me disait que Walters n'était pas le bon cheval, en fait, et il aurait jamais dû remplacer Mike Potter. Voilà. Alors, c'est pas un débat. Ouais, c'est pas un débat de personne.
Non, mais c'est un débat. Il faut que ce soit un débat, justement.
L'entraîneur est quand même au centre. L'entraîneur est quand même au centre des discussions ce soir.
Hervé s'est réveillé.
Michael, laissez-moi parler.
C'est réveillé.
Monsieur Guiraud, laissez-moi parler. Ne me coupez pas la parole, monsieur Guiraud.
Excusez-moi, monsieur Bretel.
Pas d'abord respectueux par rapport
oui,
à...
Oui.
Moi, je ne suis pas d'accord que Michael Douz, à des milliers de kilomètres d'ici, après un passage éclair et avec les performances, il n'a pas fait mieux que les autres.
Non, non,
surtout voilà, lui, il a même réussi à faire un match international en faisant jouer 18 joueurs au lieu de 17 sur la feuille de match. Donc voilà. Alors, je crois qu'il ne faut quand même pas non plus que ce monsieur se prenne pour à des milliers de kilomètres sur un cerceur de censeur par rapport à Walters et qu'il y a quand même un autre palmarès que lui. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Pardon, Hervé. Hervé, il va bien en profiter. Hervé.
Bonjour, Hervé. Comme disait Louis tout à l'heure, je crois que c'est pas un problème de personne. Il faut arrêter, je crois, de tirer sur un homme, sur l'entraîneur qui doit faire en ce moment avec les moyens du bord. Bon, écoutez. Il a fait des choix, il les assume. Bon, c'est tout à son honneur. Bon, la saison dernière, au même moment, les Dragons avaient seulement deux victoires. Là, on est à une victoire, on a un petit peu de retard sur le planning. Et malgré cela, les Dragons se sont retrouvés en demi-finale. Donc,
attention, Bird ne sera pas là cette année. Hein.
Beur ne sera pas là, mais Beur n'était pas arrivé aussi en début de saison. Peut-être qu'il y aura un autre oiseau qui arrivera. Bon, ça, c'est il y a tellement de questions à se poser. Donc, je crois qu'il faut être indulgent avec les jeunes qui sont lancés dans le grand bain. Ils ont montré de quoi ils étaient capables. On tire un peu à boulet rouge sur le petit Gigot qui, moi, je l'ai trouvé très bon, à l'aise, bon, à un poste inhabituel pour lui. Il s'est passé à droite, il s'est passé à gauche, il lève la tête, il sait où envoyer le jeu. Donc c'est sûr que c'était pas un cadeau pour lui, mais il a été à la hauteur de sa tâche. J'ai vu un petit Benley toujours efficace derrière le tenu, même à des moments peut-être un petit peu trop sobre. Peut-être que nous, avec notre esprit français, on attendrait un petit peu à mieux à ce qu'il parte un peu plus derrière le tenu. Bon, mais
est-ce qu'on lui demande d'abord?
Voilà. Non, mais justement, donc il se plie à un collectif. Donc tout n'a pas été négatif. C'est vrai qu'il manque dans cette fameuse victoire qui va arriver. Donc avant de taper sur un homme sur Walters, bon, qui pour moi pour qui j'éprouve le plus profond respect, il faut le laisser travailler. Donc c'est vrai que bon, il y a une petite crise qui se profile. On essaie d'en savoir davantage, mais bon, je crois qu'il faut les laisser travailler dans la sérénité.
Ce qui paraît quand même inquiétant, c'est qu'il y a une récurrence au niveau du jeu, c'est-à-dire qu'on a un jeu qui est stéréotypé, c'est souvent 7 pètes et puis après
c'est vrai Alain, mais bon, j'entendais cela, moi, il y a encore 3 ou 4 avés Potter, que c'est vrai qu'on savait exactement ce qu'allaient faire les dragons, on connaît les schémas, et c'est vrai que de temps en temps, il y avait derrière, après cette étincelle, un gars comme Greenshield, comme Wilson, qui a mené un petit plus. Mais bon, je crois que ça va arriver. Pour l'instant, bon, avec cette nouvelle équipe, avec les pépins qu'il y a eu aussi, il ne faut pas oublier quand même que Thomas Bosque a travaillé pendant 3 mois. C'était lui le maître d'œuvre dans cette équipe. Il n'est pas là, donc lui aussi va arriver. Donc, je crois qu'il faut garder espoir et être, comme le disait tout à l'heure Pascal Jean-Pi, surtout notre rôle. On a surtout un rôle de supporter, et c'est d'être derrière les dragons. Je crois que les joueurs attendent cela. Vous savez, un joueur, ça marche au moral, et il leur tarde. Que samedi prochain à Brutus, la tribune gauche se lève et il les encourage.
Pascal, toi qui as joué en 2006, qui a été de la première aventure, la première année, si tu serais joueur actuellement, comment tu t'appréhenderais tout ça? Comment tu penses que tu réagirais?
Mais c'est vrai que c'est difficile quand on perd les matchs. De suite, on se demande, ça vient de l'entraîneur, ça vient des joueurs, ça vient de l'esprit de l'équipe, tout. Et c'est pour ça que là, vraiment les joueurs, il faut qu'ils fassent ce bloc ensemble et avec les supporters, parce que c'est vraiment important qu'à Perpignan, il y ait une très grande équipe, hein, puisque c'est vrai que bon, on est seul, hein, je veux dire, on est seul dans ce sport. On n'est pas trop aidé par les médias, hein, je tiens à le souligner, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir la Super League, et gardons-la, et il ne faut pas se chamailler pour rien, quoi. Je veux dire, les entraîneurs, comme le soulignait Louis, le calendrier de début de saison est très difficile, beaucoup de joueurs clés blessés, avec Jean-Philippe Bell, Thomas Bosque. J'écoutais encore les commentaires de Terry Matterson qui faisait l'analyse du match après le match des Celtics. Les journalistes anglais sont pas inquiets. Eux, ils sont inquiets parce qu'il y a eu des blessés. Et à un moment donné, si vous enlevez la charnière à Castelfort, si vous enlevez la charnière à Leeds qui a gagné pour l'instant que 3 matchs et qui a gagné autant de matchs que les Celtics. Ouais. Donc à un moment donné, eux, ils se disent, bon, quand il va avoir le retour peut-être de Thomas, bon, c'est vrai que là on perd un joueur aussi clé qui est Mog, bon, qui était soi-disant blessé, enfin, je sais pas, moi je connais pas l'histoire, quand on perd Greenshield, la confiance dans l'équipe, c'est plus la même, quoi. Maintenant, en espérant que bon, les retours de Thomas, parce qu'il faut pas attendre non plus Thomas comme le retour de Thomas qui va tout changer, mais ça mènera une assise, je pense, à l'équipe, quoi.
Dans la sérénité, Klaus Perkovic, qui a très envie de s'exprimer sur le sujet.
Le même genre de questions. Le grand Klaus qu'on retrouve ce soir à IA.
Je vais me fâcher avec mes amis Louis et Hervé, parce que moi, je jette la blâme sur le charnière. Le charnière, c'est flagrant, c'est inexistant. Un charnière, c'est là pour commander, improviser et produire un jeu du pied. On voit ni l'un ni l'autre. espérant qu'avec le retour de Thomas Bosque, et pourquoi pas le petit Barthaud, qui a un jeu de pied. Pourquoi pas? Ce qui nous manque, c'est sûrement un jeu de pied et un peu d'improvisation dans le jeu. Joue devant, ça va, c'est bien. Oui.
Justement, par rapport à ce jeu stéréotypé qu'on voit depuis que les gens pensent qu'on pratique depuis le début de la saison, est-ce que toi tu penses qu'un entraîneur australien comme ça, il vient avec ses principes? Si pour lui, ça commence devant, eh bien ça commence devant. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette équipe va se lâcher et va jouer? La confiance, qu'est-ce qui manque?
Le parquet, il est irréprochable, le parquet. Ça commence devant, mais ensuite, il faut des patrons. Et des patrons, il n'y a pas. À un moment donné, il faut savoir faire des choix. On ne fait pas trop de choix. On choisit de jouer devant, fatiguer l'adversaire. Bon, on se fatigue aussi. Ce petit le nouveau qu'on a, le Dallas, mon pauvre, il finira pas la saison s'il continue à jouer comme ça. Et il fait 160 plaquages et il prend autant de ballons. Il faut trouver une solution. Pourquoi pas Barthaud, Bosque, pourquoi pas Barthaud, un jeu de pied, mieux que lui, il n'y en a pas.
Alors justement, on parle de la charnière, puisque c'est là que le bas blesse. Mog vient de partir, ou sur le départ, je ne sais pas s'il a pris déjà l'avion. Donc, est-ce que selon vous, et très honnêtement, sans pratiquer la langue de bois, c'est un bien ou un mal pour le club?
Moi, je pense que c'est un mal au niveau de la qualité du joueur. Parce que si on avait replacé Mog au centre, qui était sa place privilégiée chez les Dragons, on perd quand même un super joueur. Tous les joueurs le reconnaissent. À l'entraînement, c'était un guerrier. Il passait devant. C'était quand même le patron du vestiaire. Bruno Antegnette nous a dit qu'au niveau des Australiens, il était écouté. Bon. Moi, je pense qu'on perd un super joueur. Maintenant, sa femme avait des envies de...
Il ne faut pas oublier que c'était un ailier transformé en ouverture. Il nous a fait gagner énormément de matchs.
Contrairement à...
Non, c'est sûr. Bon, c'est un peu un coffre-fort parfois, mais bon, un ailier transformé en ouverture, c'est pas évident.
Il y a Price à Saint-Hélène qui est arrivé, qui est passé de l'aile au centre puis à l'ouverture, avec du succès,
Et puis ne jetons pas la pierre à Walters de le mettre à l'ouverture. N'oubliez pas qu'il a quand même fait la demi-finale et la finale de Cup à Wembley au poste d'ouverture. Donc Mike Potter, l'avait déjà essayé à l'ouverture.
Oui, parce qu'on n'avait que ça à ce moment-là, effectivement. Alain, René.
Non, moi, je pense aussi que Mog a été un très bon joueur, un très grand joueur. Le problème, c'est qu'on le faisait jouer à l'ouverture, c'est pas son poste non plus. C'est un peu l'histoire de ça là, dernièrement. Alors, bon, qu'il parte, moi je suis déçu qu'il parte, parce que quand on se rappelle quand même les matchs, il nous fait aux entraînements toujours le premier. Il avait un bon état d'esprit. Son problème, c'est qu'il ne parlait pas autour de lui. À la presse, il n'a jamais voulu être interviewé. Avec les gens, il n'avait pas trop de contact. Mais le problème n'est pas là. C'est que sur le terrain, il faisait son match chaque fois. Même à l'ouverture, on a été bien content d'avoir, parce qu'on n'avait plus personne. Sauf avec l'histoire Bird l'an dernier. Moi, j'aurais préféré avoir Bird à l'ouverture en fin de saison et Mog au centre.
Oui, enfin, pour Mog, bon, il a souhaité partir, ben, tant mieux en fait, il veut partir, on ne peut pas le retenir. Mais je suis surpris d'ailleurs de le retrouver dans un autre club australien, Canberra.
René, juste deux mots sur Mog quand même. Sa femme est à 50% dans son départ, elle en avait ras-le-bol maintenant dans la France, ça peut se comprendre, 4 ans qu'il est éloigné de sa famille. Il faut noter quand même, et il faut le dire, que le président Gouache, Bernard, chaque fin de match, quand les Dragons perdaient, c'est Mog qui en prenait plein la tronche. Ça, il faut le reconnaître.
Je sais pas là. Enfin, il avait quand même un contrat, quoi. Il avait un contrat. Bon, enfin, peu importe. On va pas. Enfin, c'est vrai qu'on peut regretter son départ, parce que c'était un des. Moi, je reviens, c'est un des meilleurs défenseurs que nous avons. C'est un joueur solide qui était respecté des autres joueurs. Et puis, pour revenir, tu dis pourquoi on joue comme ça depuis cette année? Non, l'année dernière, on jouait pareil. Mais on avait peut-être. Allez, devant, on perforait, on passait au moins une fois. Là, on passe plus. Mais l'année dernière, on jouait pareil. Voilà.
Donc, a priori, on ne surprend plus, quoi, c'est ça. Hervé, Louis.
Le problème de la surprise, c'est que, bon, d'abord, il faut regarder un championnat qui, je crois, l'ensemble du championnat s'est durci. On voit Saint-Hélène en difficulté, Leeds qui ne gagne pas, Wigan finalement qui revient au premier plan, Hull que nous allons rencontrer, les Rovers bon, qui ont battu Leeds la semaine dernière, mais qui ont quand même en même temps pris 30 points il y a quelques semaines aussi. Ouais. Donc je pense que c'est un championnat très ouvert. Donc dans cette ouverture, ça explique que personne n'est vraiment inquiet encore. Voilà, parce que le jeu est encore ouvert. Bon. Pour nous, au niveau des Dragons, Il est bien évident que on aurait préféré une ou deux victoires au compteur qui auraient été dans la logique des choses, mais je pense que 3 à 4 victoires ça aurait été une performance hors du commun pour les Dragons. Bon, il nous manque en fait, je pense, il nous manque une victoire au tableau en l'état de la compétition et du calendrier que nous avons eu. Donc maintenant il suffit pas que ça perdure. C'est ça la grande interrogation, c'est pas peut-être dans l'immédiat on se pose des questions pourquoi on n'a pas gagné, mais je crois que c'est pas l'avenir du club qui est en jeu sur ces contre-performances actuelles de l'équipe. Bon, il faut quand même raison garder, on en a parlé dans notre dernière édition, entre les Dragons de Pascal Jampi et les Dragons d'aujourd'hui, il y a quand même une évolution considérable à tous les niveaux dans le club. Donc nous sommes dans une autre dimension des Dragons catalans, et dans cette dimension, on est à une certaine limite et il faut passer à notre cap. Voilà, je pense que c'est ça notre problème. C'est pas du tout... Moi, je reste convaincu que les Dragons sont, malgré les contre-performances cette année, dans une progression constante. Alors évidemment, il y a un petit reflux là qui contrarie tout le monde, mais quand même, on reste toujours dans un certain niveau qui est celui de la Super League. Il ne faut jamais l'oublier. On n'est pas descendu au niveau du championnat de France, par exemple, ou de la Ligue 1. C'est pas vrai. On est toujours dans la Super League. Il ne faut jamais l'oublier, ça.
Bernard Young, qui est dans son coin, là, qui fait le timide, pourtant il est habitué à venir à l'émission. Bernard, on vient de dire que les avants franchissent moins. Est-ce que c'est aussi ton avis par rapport aux années précédentes?
Okay, écoute, sur le dernier match qu'on a vu à la maison là contre Castleford, on a vu une. Je résume en quelque peu de choses le match que j'ai vu contre Castleford. Hein. On a vu une première mi-temps où on a joué face au vent. On a été dominé tout le match. On va 3 fois chez l'adversaire, on marque 2 essais. Chose qui en rugby à 13 est quand même assez extraordinaire. En seconde mi-temps avec l'appui du vent, nos avants avec cette tenue n'avançaient que de 20 mètres. Alors que le joueur d'en bas s'avançait de 50 mètres. Donc quelque part, je ne sais pas si les avants étaient fatigués, usés, si c'est un problème de charnière, si c'est le problème de Mog, ou si c'est le problème de Walters, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Voilà. Pour en revenir à Mog, si on remonte sur les 3 ans en arrière, ou les 4 ans qu'il est chez nous, j'aimerais que vous comptiez dans votre tête combien de matchs on a perdu à cause de lui, combien de matchs on a gagné grâce à lui. Et vous allez voir que le monsieur Camille était là, c'était un patron, c'était un meneur. À l'ouverture, je l'ai vu être très bon. Je l'ai vu être très mauvais, pas mauvais mais passable. Après, juger le garçon parce qu'il s'en va maintenant. C'est vrai que le contexte est difficile pour lui. L'équipe ne gagne pas. Sa femme ne sent pas bien. Il veut partir. Bon, souhaitons-lui bon vent. Je pense que c'est pas un garçon sur qui il faut cracher, quoi. Surtout pas, quoi. Ou qu'il change de femme. Ouais.
Ou qu'il change de femme.
Enfin, sur les burns. J'ai une question moi pour Pascal, savoir si on a vu que depuis 15 jours les Dragons sont convoqués à 6h du matin à la plaine des Jeux. Est-ce que ça pour toi ça peut avoir une influence sur un joueur? Parce que moi je sais pas, j'ai pas l'impression que de faire entraîner un Dallas Johnson qui a tout gagné en Australie à 6h du matin que le garçon sera meilleur le samedi. Et même je me pose la question, 3 jours d'affilée 6h du matin au niveau de la récupération, est-ce que tu penses que toi ça marque les joueurs certainement, mais est-ce que ça peut avoir un effet positif sur l'équipe?
Rappelle-toi Warrington, Pascal. La première année.
Tu avais connu Adamson?
Ouais, j'ai connu Adamson, ouais. Avec les entraînements, même à la plage, en plein hiver, il n'y a pas de souci. Si tu veux, moi, je suis pas au sein du groupe, donc je sais pas comment cela fonctionne. Si à un moment donné, il y a des joueurs, à un moment donné, qui font pas le nécessaire, qui sont pas pro à 100%. Donc, à un moment donné, s'il faut recadrer tout ça, peut-être ça va pas leur faire trop de mal de se lever à 6 heures. Il faut savoir qu'en Australie, quand même, les joueurs qui sont, il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés, sur les premiers entraînements, ils sont à partir de 6 heures à l'entraînement. Bon, au Dragon, ça se passe pareil. Et, de temps en temps, ben, dire, attendez, les gars, au lieu de récupérer, jusqu'à 10 heures, entraînement à 10 heures, ben, vous allez venir à 6 heures du matin. Ben, ça peut pas faire de mal. Maintenant, c'est sûr qu'il faut pas tirer sur la corde parce qu'à un moment donné, les joueurs, ils ont besoin de récupération. Donc, moi, je suis pas dans le groupe pour répondre à cette question, mais de temps en temps, je pense qu'à un moment donné, une bonne, comme on appelle ça, une bonne petite punition, ça fait du bien. Maintenant, il faut pas que ça dure trop longtemps, quoi.
Bon, enfin, oui. Je le perçois pas comme une punition parce que je pense que dans la mesure où c'est accepté, c'est pas du tout comme ça. Moi, je pense que Walters a besoin de reprendre la main sur son groupe. Le se lever matin, moi je suis un lève-tôt, donc ça me pose pas de problème. Il y a beaucoup d'entraîneurs dont je suis qui pensent que il vaut mieux se lever matin, mais aller au lit de bonne heure, parce que la récupération, ça appartient quand même à l'entraînement. Donc des joueurs qui se lèvent à 6h du matin, à 10h ou à 3h de l'après-midi, s'ils ne gèrent pas le temps de récupération qu'ils ont, c'est ça le grand problème. C'est pas l'heure où on se lève ou l'heure à laquelle on joue. Il y a des matchs, on joue à 3h, il y a des matchs à 20h, donc c'est pas du tout ça. Donc je pense que l'histoire des entraînements est marquée d'entraîneurs qui ont eu des caprices comme nous en avons tous eu. Un jour, le footing, il dure un peu plus que d'habitude, où on prend la douche froide, etc. Bon, c'est le genre de petite brimade qui rappelle un peu le bon temps du service militaire pour certains, et qui fait que quand même le groupe se soude aussi. Il faut jamais oublier que dans la tête de ceux qui font ça, c'est pour essayer de remobiliser le groupe sur ses objectifs. Et si Walters, en les faisant lever à 6h du matin, arrive à regrouper l'équipe, ben dimanche, si les Dragons gagnent, ben on dira il a bien fait. Bon, et je pense pas que c'est ça qui créera et la victoire et la défaite. Mais en termes de dynamique de groupe et de stratégie d'entraînement, je ne suis pas du tout choqué.
Oui, juste une petite précision, mais quand tu dis il vaut mieux se coucher tôt et non, se coucher tôt.
Oui.
Il n'y a pas de sous-entendu que tu.
Mais non, ça peut laisser supposer que certains, peut-être n'étant pas assez fatigués, pensent que peut-être ils peuvent encore un peu traîner le soir, quoi. Il y a ça peut-être, je ne sais pas, la discipline de l'équipe. Moi, c'est pas mon problème, mais on sait très bien que bon, il y a des joueurs qui ont besoin aussi, qui sont disciplinés d'eux-mêmes, et d'autres qu'il faut discipliner. Bon, mais ça, c'est partout, c'est dans le travail, c'est partout, quoi. Donc les joueurs de rugby n'échappent pas aux règles. Maintenant, il ne faudrait pas non plus tomber dans le travers de plaindre des joueurs parce qu'ils s'entraînent. Ils sont quand même là pour ça. Ils sont rétribués. Ils défendent assez leur statut de professionnel. Donc je pense qu'un professionnel a des comptes à rendre non seulement à ceux qui le salarient, mais aux supporters qui dépensent leur argent pour les faire vivre à eux. Donc ça aussi, il ne faut jamais l'oublier.
D'accord. Donc ce bilan est triste. Hein. Donc 6 défaites, c'est ça ? Une victoire. Vous qui êtes président de Peña, Olivier, Jean-Marie notamment, Jean-Marie et Saint-Cyprien, comment réagissent les supporters autour de toi ?
Bonsoir. C'est vrai que les supporters de Peña en ce moment ne sont pas trop contents. Hein. Bon, ils viennent au stade et ils voient que déjà c'est pas trop emballant. Hein. On ne voit pas beaucoup de jeux, comme vous l'avez souligné. Ça joue beaucoup devant, hein, beaucoup de fixation. On vient devant, il n'y a pas beaucoup de grosses envolées. Hein. Ça manque de panache et de faire soulever un peu les supporters. Hein. Et on est un peu déçus. Et puis, bon, on se demande même s'il y a un leader dans le groupe, parce que ça joue n'importe comment. Hein, et on se demande même si entre eux, il y a un esprit de solidarité, s'ils s'entendent bien. On dirait que, bon, en plus, il n'y a pas le moral. Hein, vu les défaites, ouais. On n'a pas le moral. Et puis, bon, les supporters, c'est pareil. On n'a pas le moral. Alors, on espère qu'il y aura un électrochoc samedi contre Hull et qu'on puisse au moins fêter la victoire.
Alors, justement, dans cette équipe, est-ce qu'il n'y a pas justement l'absence d'un vrai patron comme on l'avait avec Greg Bird ? Est-ce que, pour moi, ça paraît une évidence ? C'est ce que j'ai titré dans le Midi Olympique il n'y a pas très longtemps. Dragon cherche patron. Est-ce que c'est mon avis, hein, maintenant, ça ne concerne que moi. Est-ce que c'est le vôtre aussi ?
Oui, mais le patron, il faut l'avoir en début de saison quand tu fais ton squad. Je ne sais pas, moi, il y a des entraîneurs qui ont fait un recrutement. Ils pensaient que s'ils ont mis Thomas comme capitaine, malheureusement, il se blesse. Ils pensaient que Thomas pouvait être celui-là quand tu lui donnes les rênes de l'équipe à la mêlée. Maintenant, il ne faut pas se dire au mois d'avril, quand tu as perdu 6 matchs, bon, mais il nous manque un patron. Le patron, il y a quand même un projet de jeu qui est fait autour des joueurs que tu as sous la main par rapport aux recrues que tu fais. C'était pas une mauvaise idée de recruter deux centres. On voyait qu'on manquait de jambes derrière l'année dernière. Ça, Walker, à condition qu'ils jouent à leur poste, c'est du très bon. Maintenant, le demi-démêlé, moi je suis convaincu que ça fait depuis le départ de Stacey Jones, il nous manque un demi-démêlé. On en a deux, lesquels ?
Pardon. On a deux, on a le petit Barto et on a Bosque.
Oui, le petit Barto, tu
es troisième.
Le petit Barto, tu l'envoies au feu
contre. C'est sûr de Bosque te fait dire ça aujourd'hui. Mais s'il était sur le terrain, tu parlais pas pareil. Enfin, attends.
Non, mais c'est ce que je te dis. Les blessures sont la conséquence du patron, peut-être, qui te manque actuellement.
Je voulais rebondir, moi, sur les peignards et les supporters, parce qu'on en a parlé rapidement l'autre soir. Jean-Marie a tout à fait raison. Mais j'ai l'impression que cette année, ou depuis l'année dernière, on s'est un peu manqué avec les joueurs et avec le staff des Dragons. Parce qu'ils sont là à présent, les gens de I, hein, qui étaient avec nous. L'année dernière, comme chaque année, il y avait la réception de fin d'année où on se rencontrait avec les joueurs, avec les joueurs. Cette année, elle n'a pas eu lieu. Déjà. Et puis au mois de décembre, au mois de janvier, on s'est un peu inquiété. Parce que comme chaque année, encore une fois, il y a eu la présentation des joueurs. Ça vous permettait d'être plus proche des joueurs, de les rencontrer, des joueurs qu'on ne connaissait pas. Je parle de Johnson et compagnie. Et cette année, non plus. Ça a été un loupé. Alors après, bon, on nous dit, les supporters, vous n'êtes pas assez enthousiastes. Ah, mais d'un côté aussi, bon, nous, on nous a manqué un petit peu aussi. Donc c'est vrai qu'on a besoin de se retrouver. Et peut-être que le staff des Dragons devrait y réfléchir, de se retrouver avec les joueurs et avec les supporters. Bon, mais cette année, vraiment, on s'est loupé. Voilà.
René, tu parles comme un livre, puisque pas plus tard qu'avant-hier, les Dragons nous ont demandé d'organiser l'année prochaine la présentation du squad des Dragons à IE, à la Catalane. Donc ils ont trouvé que c'est excellent, on nous a dit qu'ils n'avaient plus le temps de le faire, et ils nous ont demandé de revoir ça à IE l'année prochaine, bien sûr en discutant avec toutes les peignes avant, mais ils veulent refaire cette présentation.
Ils vont croire que tu me l'as soufflé. Hein.
Voilà, tout à fait.
Bon messieurs, ça fait 35 minutes, on a dépassé le temps prévu, puisque c'est réparti en trois épisodes, demi-heure consacrée au Dragon, demi-heure consacrée au championnat de France, l'Alert, et puis tout ce qui s'articule autour du championnat français, et les questions aussi des forumistes, et la dernière demi-heure pour parler du match à venir. Donc on va commencer par les questions peut-être des forumistes.
Les premières questions. Attends, il veut intervenir.
Ah, ouais, Mario qui veut intervenir. Deux minutes là, ce qui concerne les supporters. Il faut savoir que dans les tribunes, les gens que je côtoie, moi, que j'ai à côté de moi, c'est des gens qui sont connaisseurs de rugby à 13. Les premières années, quand on venait voir Leeds, c'était jouer. À la limite, les Dragons, bon, c'était un second plan. Puis est passé l'année de la Cup, etc. La troisième place, les playoffs. Les gens actuellement ont besoin de se retrouver dans cette équipe. Ils ont besoin de victoires, ils ont besoin d'avancer. Et là, le fait que le spectacle soit un peu gâché par le manque d'ambition au niveau du jeu, mais les gens se morfondent. C'est par un exemple critique. Quand tu vas au cinéma et que tu vois un film qui t'ennuie, ben tu t'endors. Et bien les supporters Dragons, ils font un peu comme ça, quoi. Ils se régalent pas, donc ils ont pas envie de crier. Voilà, donc pour ce qui était des supporters. Après, je pense que si dès dimanche on revoit des amolés, on voit du jeu, etc., faudra casser pas, les gens vont se lever, les gens vont crier. Mais bon, là c'est difficile de faire lever les gens. Hein. Moi j'ai souvenir, pas plus tard qu'il y a 15 jours, je suis avec mon épouse dans les tribunes, on se balançait un chant catalan, ce que vous voulez. On était deux à chanter, quoi. Deux, ça fait mal. Je dirais, moi, j'essayais de lever du monde, mais après, je comprends les gens qui ne crient pas. Je comprends tout à fait. Je conçois, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, s'il y a des amolés, il y aura des cris dans les tribunes. Hein, voilà. S'il n'y a pas d'amolés, ben, on va rester encore triste et dans nos tribunes.
Un grand merci à Klaus Perkovic, qui nous ravitaille en bière et en
pizza, mais non, fantastique.
Et diététique ce soir. Merci beaucoup. Ouais. On est bien au café du commerce ici sur tête.
Au bar du marché. Hein.
Ouais. Au bar du marché, pardon, ouais, autant pour moi. Ouais. Voilà.
Le grand bar du marché.
C'est beau que je n'aime pas assez souvent.
Pour en revenir aux supporters, il est évident
on le fait bref, supporters.
Que la baisse d'enthousiasme est réelle. Hein. Pas, moi, je l'ai constaté depuis le début. Mais c'est vrai qu'on ne propose pas grand-chose au point de vue jeu offensif. Et j'ai noté contre les Gallois, j'ai vraiment vibré après la 70e minute où il y a eu une action avec libération de ballon. On n'avait pas vu toute la partie. En défense, on s'y est mis, hein. Ça a été un match d'homme, c'est vrai, mais au point de vue attaque, on a continué à ne rien faire. Et il y a eu, après la 70e minute, où j'ai vu une action, où je ne sais pas si c'est Guissette qui libère un ballon, il y a eu 2-3 passes d'affilée, et c'est la seule fois de la partie où on a vu ça, la seule fois. Et quand on veut gagner à l'extérieur, on ne peut pas gagner si on fait pas de jeu.
C'était un match à Mégiral, ça, c'est pas possible. C'est pas vrai. Alors, on a des questions.
La première question, elle vient d'un internaute qui s'appelle Nico, et qui veut la poser à. Pascal Jampi. Alors, il te demande, Pascal, quel joueur français des autres clubs de l'air aurait, selon vous, le niveau pour intégrer la Super League ?
Mais c'est vrai que au niveau des jeunes, y a pas mal. Moi, je m'occupe surtout des juniors. J'entraîne l'équipe élite junior. Et c'est vrai que bon. Je remarque quelques joueurs qui ont certaines qualités. En première, je vais vous dire mon avis, les joueurs de l'équipe d'élite, des joueurs comme Barthaud, même s'il est à l'UTC, des joueurs comme Pélissier, Loi Pélissier, Joseph Nègre, Thibaut Margalet, Thibaut Margallet, Théo aussi, Théo Bonarias, ils sont vraiment jeunes, mais je crois qu'il faut laisser vraiment, faut vraiment laisser le temps à ces jeunes de s'épanouir, parce que il faut savoir que des joueurs comme Thomas Bosque ou Grigory Muniz, ils ont pas joué à 20 ans en Super League, hein. Ils ont joué à je crois que c'est dans les 22 ans. Donc il faut pas leur mettre une certaine pression et leur dire toi tu seras un futur joueur de Super League. Je pense qu'à un moment donné, les joueurs, pour les juger, je vous parle de choses que je connais puisque j'ai entraîné l'élite, j'ai entraîné les juniors, là je m'occupe encore de la formation des juniors. Il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de qualité, de capacité. On va se dire, celui-là, ça va être un futur grand. Et après, au niveau de la mentalité, au niveau de son hygiène de vie, il n'a pas tout ce qu'un joueur professionnel ou un joueur de Super League, ce qu'on attend pour avoir un grand joueur. Je parle surtout de Barthaud, parce que Barthaud, ça fait quand même deux ans que je le côtoie. Comme disait Klaus, c'est vraiment un joueur qui a vraiment des... au niveau de son intégration dans le groupe des Dragons, il a vraiment la mentalité professionnelle. Maintenant, c'est sûr de le faire jouer dans des conditions comme ça, c'est pas évident, on le met pas dans les meilleures conditions. Voilà. Après, au niveau des joueurs, je vous dis, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Maintenant, je pense que les joueurs qui sont d'élite, ils sont chez nous, quoi.
Mais ses parents vont être contents parce qu'ils écoutaient l'émission, les parents de Barthaud.
Je leur passe le bonjour.
Son grand-père, je vais passer à vous. Alors, j'ai une autre question. Alors, celle-là est adressée à Hervé Guiraud. Je ne vais pas lui demander si le Stade français va débuter en élite l'année prochaine.
Il a 8 jours de plus.
Voilà. Alors, on me demande, est-il prévu une suite au tournoi des provinces ? Alors, c'était un projet intéressant. Et aujourd'hui, les gens se demandent s'il va y avoir une suite.
Écoutez, une suite, déjà, il faudrait qu'il y ait une date de disponible, tout simplement. Pour l'instant, il n'y a pas de date disponible. Il faut savoir que le tournoi des provinces, c'était à l'initiative des présidents de l'ALER qui avait décidé, justement, pour combler les dimanches libres de jouer. Puis, les choses ont fait que le beau temps est arrivé. Il a fallu rattraper sur le championnat. Et à ce jour, il n'y a pas de date. Donc, on va attendre tout simplement la prochaine réunion des présidents d'élite et savoir. Mais maintenant, je ne vois pas l'intérêt en fin de saison d'aller faire ce match. Cela va plutôt gêner les équipes qui jouent les phases finales, d'aller leur reprendre des joueurs pour un tournoi qui sont toutes amicales. Donc, soit une finale en début de saison pour lancer la saison l'air, soit un match de préparation pour l'équipe de France pour la Coupe d'Europe, quoi. Tout est envisageable, mais ce n'est pas moi qui détiens les clés du projet, ce sont les présidents de l'élite, tout simplement.
Non, juste une petite remarque, il y a des choses étonnantes. On parlait justement de Thibaut Margallet. Je ne l'ai pas vu sur la feuille de match dimanche. Je croyais qu'il était blessé. J'ai vu sa maman. Sa maman m'a dit non, il n'est pas blessé, il se repose. Donc, ce qui est gênant, c'est qu'après...
Thibaut Margallet, c'est pas compliqué. Je peux raconter l'histoire. Je crois que c'est un garçon qui est au pôle espoir à Toulouse. Il s'est blessé à l'entraînement et le docteur médical, qui est un docteur sportif, il a mis 8 jours d'interruption sportive. Donc, c'était mercredi dernier, donc jusqu'à mercredi, normalement, par raison de sécurité pour les joueurs. Je me répète, peut-être des fois je dérange un peu, mais les joueurs, ce ne sont pas des machines, évidemment, ce ne sont que des hommes. Et lorsque un docteur, justement, du CREP de Toulouse, qui gère des équipes sportives nationales, met 8 jours de repos, pour un joueur, je crois qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Vous savez, les accidents arrivent, hein, on vient de vivre cela. Et je crois qu'à un moment, il faut raison garder, comme disait Louis tout à l'heure, et être prudent. Les joueurs, je me répète, ne sont pas des machines.
Oui, non, mais allez, c'était juste pour finir la question. Je posais cette question à Hervé parce que j'ai vu que l'équipe à Pascal a joué avec 15 éléments à Pia. Un derby à 15 ou 16, c'est pas facile. Allez.
Alors, on continue avec les questions de Nico. Décidément, il est bien bavard. Alors, il veut la poser à Louis cette fois-ci. Ah, il veut savoir quel match des Dragons vous a fait le plus vibrer dans votre cabine de commentateur depuis l'arrivée du club en Super League.
Rétrospectivement, pour moi, c'est clair, c'est le premier.
Ah, d'accord.
Voilà, c'est le premier parce que on était tous anxieux. On avait une grosse envie, comme tout le monde. La Super League, moi, je la connaissais. J'avais le privilège, peut-être que n'avaient pas certains, comme le disait Bernard tout à l'heure, de connaître ce niveau de jeu. Mais c'est vrai que ce jour-là, avec ce match, je reste convaincu que c'est avec ce match que les Dragons se sont vraiment installés en Super League. Il n'y a pas eu de tour de chauffe. On a compris d'entrée que les Dragons seraient là en Super League et j'espère pour longtemps, quoi. Ils se sont imposés face à une équipe Wigan. Qui était quand même, c'est une référence en matière de rugby à 13, Wigan. C'est certainement un des plus grands clubs au monde. Et c'est devant cette équipe que, sans aucune discussion possible, les Dragons ont gagné un match, ont gagné le match avec les forces qui étaient les leurs à ce moment-là. Et personne ne savait trop où on allait. Donc, on est rentré d'entrée dans le cœur de la Super League et on y est encore.
Voilà. Louis oublie une petite confidence. J'ai su par Rodolphe Pires, il me l'a confirmé. On peut le dire maintenant, 5 ans après. Que les 10 dernières minutes du match, vous étiez main dans la main, c'est vrai ou pas?
C'est vrai, c'est vrai. Parce que nous, on nous a taxé aussi d'être un peu trop pour les Dragons.
Ah bon?
Alors Louis, on continue, là, je sais pas, ouais, on continue. Voilà. Alors il y a une autre question, alors c'est là, elle nous parle du film
ah, oui.
Attends, qui retrace l'histoire du rugby à 13. Voilà. Alors, il paraît que tu en es un conférencier ainsi que Rodolphe Pires sur Paris. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus?
Alors,
moi, j'ai pas encore vu ce film.
Alors, attendez, il y a plusieurs choses. Là, si vous parlez du film The Sporting Life, c'est la vie d'un homme. C'est pas un film sur le rugby à 13. C'est pas l'histoire du rugby à 13. Il ne faut pas confondre le documentaire de Jean-Charles Dognon envers et contre tous, qui lui a fait un documentaire à l'époque pour la chaîne Pâté Sport.
On l'a gardé. Voilà.
C'est une chose, mais ça c'est un film dont le fond de l'histoire se situe dans le milieu du rugby à 13. Donc on y voit des séquences de jeu, on y voit l'ambiance professionnelle, l'argent n'est pas secret. Mais ce n'est pas un film sur le rugby à 13. Voilà, donc c'est quand même important parce que culturellement, les valeurs fondamentales du rugby à 13 sont respectées dans ce film. Voilà.
Moi, ce qui me dérangeait dans ce film, c'est que justement, au niveau de la présentation, j'avais vu des affiches où on présentait ce film comme la valeur, la référence, l'histoire du rugby à 13. Et franchement, ça me dérangeait connaissant le film. Moi, franchement, je ne me trouvais pas représenté. Je ne trouvais pas représenté l'image du rugby à 13 parce que, bon, on peut le dire ici, hein, entre ce garçon est un garçon alcoolique qui le soir n'hésite pas et met sur la figure à son épouse. Alors si c'est pour ça que j'étais toujours très très prudent lorsqu'on me demandait de parler de ce film, justement pour cette histoire. C'est vrai que j'avais du mal à m'investir pour cette histoire lorsqu'on disait c'est l'histoire du rugby à 13.
C'est une histoire sur fond de rugby à 13, mais quand même c'est un film de ciné-club, faut le reconnaître, qui tout ce qu'ils ont vu en termes de cinématographique, c'est quand même en termes de ciné-club. C'est un film quand même où le réalisateur est un des plus grands réalisateurs d'Angleterre,
oui,
Lindsay Anderson. Richard Harris, pour l'interprétation dans ce film, en 1963, premier prix d'interprétation masculine à Cannes, au Festival de Cannes. Donc c'est un film qui a des références cinématographiques. Mais c'est quand même important. Moi, j'estime que, et je l'ai toujours dit dans les conférences, ce n'est pas un film sur le rugby à 13. Mais des garçons comme Pascal, comme Bernard, comme toi Hervé, qui avaient connu l'Angleterre des années, vous retrouvez l'ambiance des vestiaires, vous retrouvez la place comme ont les Dragons au milieu de leurs supporters lorsqu'ils vont boire un pot quelque part. Donc après, le reste, c'est du cinéma. C'est du cinéma, des histoires d'amour, et ça se passe bien, ça se finit pas toujours très bien. Mais c'est un très beau film, d'ailleurs. Il est prévu l'avant-veille de la finale à Salon de Provence où il circule. Donc si vous avez l'occasion, allez le voir quand même.
Alors si on parlait un petit peu de l'air, histoire de couper un petit peu et de changer de registre, et si on parlait aussi de Carpentras, qui est en train de monter en puissance et qui a battu Limoux assez aisément dimanche dernier. Oui. Vous avez suivi ça de près, je suppose, tout le monde.
Oui, mais j'ai le voisin qui joue à le voisin de Louis, Jérôme Lafont, qui est à Limoux, qui m'a dit qu'il y a une chaude réception à Carpentras avec un très très gros match. C'est Bernard dit que ça reste à Carpentras. Oui, non, mais il paraît que ça joue en plus. Hein. Il y a eu des tampons, mais ça joue. Hein. Donc une belle équipe de Carpentras. et qui pourrait peut-être être la surprise de cette fin de saison. Donc attention à Carpentras, le club de l'IS Gendoubi.
Ouais, Bernard, Pascal, ça vous fait réagir, Carpentras, la Roseraie, les Marrons, c'est chaud là.
Ça nous rappelle l'époque, hein, la Roseraie, avec Bernard, on a fait quelques matchs là-bas, surtout qu'il y a eu une année, je sais pas, il me semble qu'on les a rencontrés 4 ou 5 fois d'affilée, en coupe, en play-off. Donc à chaque fois, c'était assez chaud, et avec comme entraîneur, Piero Zamora, hein, Bernard.
Ouais, j'ai souvenir même à l'époque du papa d'Aurélien Colonie qui était monté dans la tribune, s'expliquait avec les supporters, c'était des moments mémorables. Maintenant c'est très très bien ce que réalise Carpentras. S'il pouvait tirer le rugby à 13 vers le haut, ce serait encore mieux. Là, ils sont en train de bouger dans le Vaucluse. Je vois qu'Avignon aussi arrive à avoir des résultats. Carpentras, il faut que la roue tourne, et c'est bien pour notre mouvement, quoi.
Très bien. Et donc, parce que Pascal doit nous quitter, il a fait la gentillesse de venir ce soir. Moi, j'aimerais quand même faire un peu la pub, puisque la Fédé nous a fait un beau cadeau à IE, puisqu'il va y avoir une demi-finale de Coupe Junior à IE sur tête le samedi 3 avril, 16h30, 17h. Donc, je voulais savoir juste, Pascal, je crois que ça va être la belle entre les deux équipes, savoir s'il compte récupérer un peu des joueurs et s'il espère surtout voir beaucoup de supporters sur le terrain d'IE.
Qui contre qui ce serait, parce qu'il faut le préciser.
Donc, Pia Saint-Estève, donc en demi-finale. C'est vrai que c'est une bonne opportunité pour de faire une demi-finale à IE, sachant qu'à un moment donné, on a deux jeunes qui sont du village, Thibaut Margalet et Thibaut Cordova, qui vont jouer sur le stade de Jean Galia. Donc, je pense qu'il va y avoir les familles, les amis et tous les gens qui vont essayer de venir voir le match. Maintenant, Pia, c'est une belle équipe, avec une équipe renforcée sûrement, puisque Pia a aussi été éliminé de la Coupe. Donc, je pense qu'ils vont faire le nécessaire pour arriver à avoir le ticket de la finale. Et maintenant, nous aussi, de déployer un bon jeu et de faire un bon match. Voilà.
Donc le vainqueur rencontrera Villeneuve, c'est Villeneuve à Carcassonne, l'autre demi-finale.
En ouverture, donc, voilà. Le dimanche à 13h30 au stade de l'Aiguille à Montpellier. À Limoux, pardon.
Je sais que du côté de Toulouse, on nous écoute aussi. Si on parle un peu de Toulouse 13 aussi, qui est en train de réaliser un très très bon début de saison.
On peut juste. Pascal doit nous quitter, nous a fait vraiment le plaisir de venir parce qu'il a été prévenu très tardivement. Donc je crois qu'on peut se l'applaudir. N'oublions pas que Pascal, rappelle-nous quand même en quelle année tu as été élu meilleur secondier à la Coupe du Monde. C'était la Coupe du Monde de 2000. Donc voilà, on a un grand grand joueur parmi nous. Merci Pascal d'être venu.
Donc pour en revenir à Toulouse, Pascal est parti, ça y est. Donc Toulouse qui effectue un très très bon début de saison, avec notamment Duport, a priori Impérial dimanche dernier encore. Est-ce que ça vous étonne particulièrement que Toulouse tourne si bien pour l'instant, ou est-ce que c'est une logique sportive par rapport à la belle saison effectuée l'année dernière, malgré...
Ouais. Oui, en dehors de ce que tu dis, d'une obligation de résultat, il y a quand même un travail important qui est fait depuis longtemps sur Toulouse. Bon, Zalduendo et l'équipe un peu mûrie, elle est quand même soumise au feu roulant des exigences anglaises. Voilà, donc c'est pas la Super League, c'est encore plus dur, parce que bon, les recettes ne sont pas les mêmes. Donc ils se battent pour essayer un jour de décrocher la franchise en Super League. Mais pour l'instant, bon, ils bénéficient quand même du gros travail effectué en amont. Ils sont structurés au niveau des jeunes, de la formation. Il y a quand même un projet de club. Et le recrutement est fait en fonction de ce qu'ils voulaient. Bon, je vois que Duport, je pense, au fond, quelque part, tout le monde aurait bien aimé qu'il reste là. Il y a eu... Bon, il est parti. Bon, c'est un peu comme Mok. On va pas y revenir. Mais c'est quand même un recrutement ciblé qui a été fait et de qualité. Donc l'équipe n'a fait que progresser, quoi.
Il faut saluer aussi la prestation de Romain Mencarini, qui a fait une très très belle rentrée par ici dimanche dernier. Donc pour l'instant, Toulouse est en train de, voilà, de prendre un peu plus d'envergure. Bon appétit, Klaus Perkovic.
Mais Klaus, justement, je te demandais une chose. Tiens, d'après toi, est-ce que Toulouse, pour toi, ça serait bien ou pas bien pour le rugby français? Tu vas me dire que c'est bien, forcément, mais est-ce que ça peut apporter quelque chose de nouveau encore sur le terrain, Toulouse ou autre, hein, parce que on sait que le stade français, on ne sait pas si c'est un projet, un projet. On va arrêter le stade français, je vais me faire agresser. Mais est-ce que pour toi, ça, il faut en passer par là pour que le rugby à 13 français décolle littéralement avec les dragons pour apporter cette aura à ce 13 français qui le mériterait bien?
Merci. Oui, l'expansion de rugby à 13, ça a toujours été bien. Le Toulouse, c'est un genre d'expansion. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs en France. Hein. Est-ce qu'ils vont nous prendre des joueurs ici? Ou est-ce qu'ils vont trouver des joueurs? C'est un problème. Mais bon, c'est toujours l'expansion, c'est toujours bien pour le rugby à 13. On en a besoin. Si Toulouse, ils arrivent à monter en Super League, je dirais chapeau. Hein. Bravo. Hein.
Alors, pour parler justement de ce problème de manque de joueurs, c'est vrai qu'on n'a pas un réservoir très profond. Hervé, je crois que tu seras en mesure de nous répondre. Il y a des projets de la fédération pour créer une académie. Qu'est-ce qu'il en est ?
Mais le projet, c'est de démarrer donc, à la fin de la saison, au mois de juin, une équipe de moins de 20 ans. Donc, il ne va pas faire le championnat complet puisqu'il a déjà commencé avec les clubs de Super League. Cette équipe va faire, je crois, une douzaine de matchs. Je crois qu'il va y avoir 5 matchs sur Perpignan, enfin la région de Perpignan. D'ailleurs, notre ami Alain Forge, qui est chargé de communication de cette équipe, nous en dira davantage. Donc, je crois que c'est un projet qui est intéressant. C'est vrai que pour nous, ces fédérations, c'est un projet qui est lourd parce qu'il faut trouver le financement. C'est un projet qui a mûri dans nos têtes. On l'a peaufiné avec Richard Lewis, Nicolas Lara et Richard Lewis l'ont peaufiné au moment du Fornation. Bon. On prend le pari, cette équipe va démarrer, elle va dans un premier temps être basée sur Toulouse, cher à l'ami Louis Cazeille. Donc cette équipe ne va pas marcher dans un premier temps comme une équipe d'académie, ça va être une sélection à chaque match parce que c'est plus facile. Puis comme je vous disais tout à l'heure, c'est une question de budget. On ne peut pas pour l'instant bloquer 25 joueurs toute la semaine, surtout en fin de championnat, c'est toujours délicat. Les joueurs aussi ont besoin de récupération et là, c'est là où moi je me fais un petit peu de soucis, c'est que ces joueurs sont soumis à des cadences infernales depuis pas mal de temps. Ils vont finir avec leur championnat, ils vont reprendre encore pour 10 ou 12 matchs avec l'académie. À la sortie, derrière, les clubs vont en avoir besoin pour reprendre le championnat. Et à la sortie, bon, on se retrouve avec des gosses à 22 ou 23 balais qui sont au bout du rouleau. Donc, je crois qu'il faut avoir, une réflexion approfondie. Bon, nos techniciens, ils planchent dessus. Et c'est vrai que c'est quand même un souci fédéral d'arriver donc à trouver justement le juste milieu et trouver les conditions, les compétitions adaptées à nos joueurs.
Alain Forge qui donc sera impliqué pleinement dans le projet. Justement, on parle de préserver les jeunes joueurs. Est-ce que ça va être réellement le cas? Parce que vu l'intensité, les entraînements et les rencontres dans la durée.
Il est évident qu'en France, les jeunes joueurs, de mon point de vue, sont soumis à un dur labeur. Et pour en revenir à cette équipe qui s'appellera les Roosters, ce sera des moins de 20 ans, section française. Le jeudi soir, ils vont être au parc du CUP à côté de Perpignan, rassemblés. Ils s'entraîneront à Toulouse. Ils vont faire 5 matchs en France, 6 matchs en Angleterre. 5 matchs, dont 3 à Toulouse et 2, je ne sais pas si c'est à Émégiral ou à Brutus. Quand ils vont se déplacer, ça sera avec les Dragons catalans, c'est-à-dire les déplacements seront couplés. Ils ont 6 matchs en Angleterre, dont 2 à Hull, je sais. Et puis donc ils ont ces 11 matchs et ils vont commencer début juin et ils vont finir après la mi-août. Donc voilà. Toutes les semaines. Alors ce qui va se passer, c'est que le jeudi ils vont convoquer 22 joueurs et ils vont en garder le vendredi soir 18. Donc il y aura environ 3-4 joueurs chaque fois. Mais il faudra à ce moment que tous les clubs jouent le jeu aussi.
Quand tu dis tous les clubs, tu parles de tous les clubs français ou du département?
Non,
français.
Tous les clubs de français.
Franchement, c'est pas gagné alors.
Il y a joueurs d'Avignon, de Carpentras, de Villeneuve, de Paris, je sais pas si
c'est pas gagné parce que je sais pas si tous les clubs vont vouloir. Ils ont fini le jeu. Vous savez qu'en France, on est très rapidement en vacances. Il y a le mois de juillet et août, il n'y a plus personne.
Alors, c'est un sujet qu'on a abordé longuement avec Louis dernièrement en off. Ça, justement, il disait lui-même que les joueurs sont soumis justement à trop de matchs sur l'ensemble de la saison. Et je te vois sourire, Louis, dans ta barbe. Là.
Mais moi, je ne souris pas dans ma barbe. Je constate tout simplement qu'il y a des projets qui se développent. Des projets qui se développent avec des pilotes différents. Donc ça veut dire pilote différent, projet, discours différent, financement. C'est là le problème quand même. Financement, les sources sont quasiment les mêmes. L'implantation est toujours sur le même territoire. Donc voilà, moi encore j'ai eu André Girbard hier qui m'a dit, moi je suis chargé de mettre en place le centre de formation des dragons catalans. Donc nous avons le centre de formation des dragons catalans, nous avons sur le même territoire l'équipe d'académie, puisque Toulouse, nous avons le projet Ambition Dragon Catalan, nous avons les projets quand même des comités et des ligues, parce qu'il ne faut jamais quand même oublier que l'organisation fédérale, c'est une fédération des ligues et des comités qui définissent des programmes sportifs fédéraux, qui sont prioritaires surtout. Nous avons également les pôles nationaux. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y avait eu un match à Lézignan entre le pôle de Toulouse et le pôle de Carcassonne. Ce qui fait qu'on ajoute chaque fois une couche supplémentaire, soit d'entraînement, soit de discours technique, aux mêmes populations. Et qu'on va, pour le financement de cette affaire-là, il va falloir qu'on aille toujours chercher l'argent qui est nécessaire pour faire fonctionner ces projets, toujours aux mêmes sources. Ouais. Et à un moment donné, ça ne pourra pas quand même, ce n'est pas indéfiniment extensible. Donc je pense qu'il faut qu'à un moment donné, toutes les composantes et toutes les parties qui sont concernées par ces différents projets aient la volonté de s'asseoir autour d'une table et de discuter, de savoir qui fait quoi et qui s'arrête à un moment donné et qui prend la suite, parce qu'à la fin on n'y comprendra plus rien, mais ceux qui ne vont plus rien y comprendre avant tout, ça va être les joueurs, et ça risque d'être dramatique, parce qu'un joueur comme disait Forge tout à l'heure, va être soumis dans la même saison à peut-être 7-8 discours techniques ou de préparation physique différents, ce qui est quand même pas la meilleure des choses. Alors pour si peu qu'il y en ait un qui passe le cap ou plusieurs d'équipes nationales qui sont prioritaires surtout. Bon, alors là, moi, j'avoue que pour moi, c'est complètement illisible pour le grand public. C'est illisible. On ne comprendra pas qu'il y ait des matchs aujourd'hui, demain, des sélections, contre qui, pourquoi, d'où elles viennent, habillées de quelle couleur, pour quels objectifs, dans quel programme. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, cette multiplication des projets mérite une réflexion et une coordination.
Mais la réflexion, je crois que c'est rapé déjà, puisque c'est lancé.
Bon, ça, il faut bien. Il faut quand même savoir qu'il faut en rediscuter.
Pardon, Louis, que c'est les Anglais qui sont maîtres d'œuvre depuis quelques.
Ah, non, mais attends, toi aussi tu dis les Anglais.
Non, mais Louis,
Anglais,
depuis quelques.
Attends, mais. Anglais, c'est quand même nous qui faisons ce qu'on veut.
Non, mais tout à fait, mais au bout d'un moment, là, c'est pour aider les Dragons. Les Dragons, normalement, ont vocation à avoir une équipe de moins de 20 ans. C'est dans les règlements. Donc, on ne va pas encore annuler Bernard Gouache, on lui demande d'aller trouver 400 ou 500 000 euros. La fédération a trouvé un palliatif actuellement. Donc je veux dire, ça part de mon sentiment. La seule chose, c'est que bon, il faut savoir que la fédération n'a pas vocation à avoir un centre de formation. Nous n'avons pas le droit. C'est pas la vocation d'une fédération. Donc en attendant, c'est une sélection qui va assumer, en attendant que Bernard Gouache derrière, avec toute son équipe, travaille un centre de formation qui est demandé quand même avec les Dragons depuis 5 ans. Donc les Anglais s'impatientent. Il ne faut pas dire que c'est les Anglais qui poussent, mais vis-à-vis des autres clubs qui ont monté des franchises, chaque équipe a son équipe junior. Il n'y a que nous qui ne l'avions pas. Donc on a un petit peu éteint le feu à cette fameuse réunion avec Richard Lewis, et Nicolas Lara a pris sur lui. Bon, c'est nous, la fédération, qui allons investir sur ces jeunes. Donc là, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est vrai que ce n'est pas très clair. Donc notre équipe junior ne peut pas s'appeler Junior Dragon. C'est pour ça qu'on a trouvé une solution. Nous allons nous appeler les Roosters. Les jeunes de moins de 20 ans joueront avec un maillot bleu, blanc, rouge, avec un coq, c'est toujours honorifique et motivant. Donc je crois, voilà. Après, bon, les projets derrière, Dédé Girbat travaille, moi je suis le principal heureux, qu'il y ait un projet de centre de formation qui est à l'étude. C'est impératif aussi pour l'équipe des Dragons. Voilà, tout simplement. Donc, je crois qu'il fallait éclaircir les choses, tout simplement.
Donc, on peut parler à venir, mais ça manque de clarté encore. Hein.
Mais c'est vrai, c'est les calendriers, ne serait-ce que ce match qui s'est joué cette semaine contre les moins de 25 ans, contre la Grande-Bretagne Community Lyon, ce sont des matchs qui sont programmés de longue date. C'est l'ancienne barre là. Donc, c'est un calendrier international qu'il faut respecter. Et c'est vrai que ça pose toujours quelques problèmes chez nous en France. Bon, les Anglais, eux, n'ont pas de soucis. Ils ont ont joué, ils vont jouer ce week-end. Mais c'est vrai que nous aussi, on a toujours ce manque d'effectifs, comme disait tout à l'heure Klaus Perkovic, c'est qu'aussi, on n'a pas le réservoir joueur qui soit très très important. Quoi. Donc on tire toujours sur les mêmes joueurs.
D'où l'inquiétude de Louis.
Voilà.
Donc, moi, je ne suis pas inquiet. Je suis
d'accord avec Louis, comme d'habitude.
Moi, je suis tout simplement responsable d'une ligue. Je suis désolé. Nous appliquons les directives fédérales qui sont de préparer une sélection de cadets pour participer à une compétition officielle de la fédération, qui sont les interligues qui débouchent sur un titre de champion de France, lesquelles compétitions permettent aux sélectionneurs nationaux de dégager une équipe nationale. Donc, je pense que le programme est simple, clair, programmé dans le temps, bien précis, affiché au congrès de la fédération. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Si ce n'est qu'on est obligé en cours de route pour des exigences diverses et auxquelles on se soumet avec beaucoup de plaisir parce que c'est de l'intérêt général. Mais on est obligé de modifier des calendriers, de reporter des matchs parce qu'il y a des rencontres qui n'étaient pas prévues et qui arrivent à s'immiscer là-dedans. Donc je comprends qu'à un moment donné, pour un responsable de club ou pour un gestionnaire de calendrier, quand on vous dit 10 jours avant il faut reporter ce match parce qu'ici, là-bas, bon, il y en a déjà assez comme ça avec le mauvais temps, la neige et X raisons. Donc je pense que c'est ça qui... C'est pas les projets qui, en soi, qui sont discutables, c'est l'organisation de ces projets. Il n'y a personne, je pense, qui doit avoir le sentiment qu'il est prioritaire sur les autres. C'est nous devons travailler ensemble. Et les programmes de la fédération, je suis désolé, et les programmes de ligue et de comité, pour moi, sont prioritaires sur tous les autres.
Mais Louis, je t'agressais pas quand tu disais ça. Je disais simplement que je comprenais ton inquiétude, parce que quand je vois le petit Thibaut Magalet, puisque je le côtoie, on le voit, c'est un garçon qui... J'ai bien peur que dans 2 ans ou 3 ans, on ne voit plus ce garçon. Hein. Et pourtant, c'est un joueur qui est en place et qui est à fond à aujourd'hui, mais le corps, il n'est pas terminé, il n'est pas mature. Enfin, il est mature, oui, si on veut, mais il n'est pas préparé pour faire autant de matchs en peu de temps. Quoi. Donc, mais préservons les jeunes, s'il vous plaît. Ouais.
Bernard, c'est pas de sa faute à lui.
Je sais bien.
C'est au parrain d'intervenir, je crois, par moment. Voilà, donc nous entrons de plein pied dans la troisième partie de l'émission. On va le consacrer, il nous reste une demi-heure précisément, on va le consacrer donc au match à venir, le match qui nous intéresse au plus près, c'est-à-dire pour samedi prochain face à Hull à Brutus à 18h30. Hull KR qui a battu Leeds à domicile lors de la dernière journée. Alors là, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ou est-ce que c'est comme tu disais Louis tout à l'heure, il y a tellement de rebondissements en Super League que on ne sait plus maintenant.
Oh, il faut arrêter d'être inquiet. On est à la 8e journée de Super League. Il faut arrêter de s'inquiéter. Thomas va rentrer, Walker va rentrer. Et il faut lâcher les chevaux maintenant, que tout le monde les lâche. Les supporters déjà. À nous d'être au stade et de mettre le feu, de sentir, pas comme contre Castleford, que l'équipe est rentrée, c'était pas un enterrement, mais il s'en manquait peu. Les tribunes étaient amorphes. Donc déjà, faire sentir aux joueurs qu'on est avec eux avant le match. On va essayer de lancer ça, nous, des tribunes. Si les joueurs nous suivent et que ça arrive à embrayer, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le gagner, le match. Hull ou pas Hull, on est à la maison, les joueurs le savent très bien. C'est capital, il faut arrêter de calculer maintenant. Il faut jouer et on verra après le match ce qui se passe. Mais arrêtons de calculer. Pour moi, le grand mot, c'est jouer, jouer, jouer.
Alors, sur le site internet de Leeds, je l'ai bien vu, bien lu. Rob Bureau a souligné que physiquement, Hull KR avait pris le dessus. Sur Leeds, ce qui est quand même assez rare, quoi. Et donc là, je pense qu'il y a peut-être aussi des questions à se poser. Alors, si physiquement, a priori, les Avants franchissent moins que les années précédentes, est-ce que sur ce match-là, on risque de souffrir encore un peu plus?
Attention, hein, à Leeds, il manquait quand même Buderus, il manquait Sinfield, Peacock s'est cassé dans le match, et Eastmond, ouais, il manque 10 joueurs dans l'équipe. Donc, ils sont comme tout le monde, hein, tu enlèves 4 ou 5 cadres dans l'équipe. Il souffre, bon après c'est sûr que Hull n'a pas dû faire un mauvais match hein, pour les s'imposer à Leeds. Mais il souffre comme tout le monde des blessures. On voit bien, ils ont 6 points au bout de 7 journées, jamais c'était arrivé depuis 10 ans. Donc
Hull KR c'est une forte identité, c'est un club qui est monté il y a très peu de temps en Super League, après avoir passé quelques années pensionnaire en Ligue 1. Ils reviennent fort. Est-ce que c'est une équipe que Louis que tu trouves particulièrement qui est singulière, je dirais, par rapport aux équipes de Super League?
Hull, c'est déjà singulier parce que dans la seule ville, c'est la seule ville où il y a 2 équipes professionnelles de Super League qui arrivent à vivre bien et une équipe de foot. Donc, Hull, c'est la tradition la plus pure du rugby à 13 britannique, avec tout ce que cela comporte, mais c'est quand même des gens qui maîtrisent quand même bien leur activité. Ce n'est pas des équipes qui sont construites à la va-vite. C'est des projets, c'est des choses qui sont implantées. Il y a chacun a ses rues, chacun. Voilà, donc c'est quand même des clubs solides. Bon, c'est des clubs qui peut-être n'ont pas toujours les résultats que les supporters attendent, mais les supporters sont toujours là et ils sont bien partagés. Et ils sont quand même des trésistes forcenés. Donc Hull, les Rovers ou le Football Club, les Robins, bon, c'est, pour moi c'est exactement la même chose. C'est des fadas de rugby à 13 qui sont aussi chauds que les supporters des Dragons catalans. Donc à mon avis, aucun souci là-dessus. Bon, ça devrait donner un très beau match. Parce que les deux, les uns savent que peut-être ils ont l'opportunité de gagner ici, et les autres, il faut qu'ils se défendent et qu'ils remportent la victoire que tout le monde attend et qui déclenchera la suite de la saison. Quoi, voilà. Donc pour moi, attention, ça ne va pas être facile, rien n'est facile en Super League, mais elle, c'est une équipe qui remplit chaque fois son contrat.
Oui, c'est vrai, oui. Ils ont perdu aussi Stanley Jean, je sais, qui a arrêté la compétition. Ils ont encore...
C'est l'énigme de l'histoire de rugby. Ouais. C'est l'énigme du rugby à 13 que personne n'a jamais réussi à résoudre. C'est... Voilà. On dit qu'il aurait joué contre... Que moi, j'aurais joué contre lui.
Je ne sais pas si vous avez entendu Bernard, mais il disait qu'il a joué contre Louis parce qu'il n'avait pas mis le micro.
Oui. Non, mais voilà. Stanley Jean, c'est quand même... L'histoire dans l'histoire, c'est l'énigme. C'est le seul joueur dont on ne connaît pas l'âge.
Donc, il y a un Papouasie, il faut le rappeler. Hein.
Ouais,
bon. L'administration en Papou, je crois qu'elle est plus complexe que
je
la
pense
française.
Qu'on a truqué pour le rajeunir, mais il a toujours tenu la route.
Bernard, allez, Bernard Young, mouille-toi un peu pour samedi. Là. Allez, on te donne les clés de la maison. On te dit que Walker et Thomas peuvent jouer. Quelle équipe tu nous composes samedi? Allez, on attaque comment contre eux?
Donne-moi les clés de la maison, j'ai fait revenir Chan et Wilson de suite. Déjà. Et... J'ai préféré Chani et Wilson, moi. C'est quand même des garçons qui Chani m'a appelé la semaine dernière, je sais pas si vous l'avez évoqué.
Oui, on en a parlé.
Dans l'émission,
ouais.
il m'a appelé pendant une demi-heure de Nouvelle-Zélande, jeudi dernier, je crois, me demandant ce qui se passait chez Dragon. Vendredi soir après le match, j'ai téléphoné demi-heure avec John Wilson, me demandait ce qui se passait au Dragon. C'est des garçons qui avaient une âme, qui étaient là, pas pour faire semblant. Ils étaient là et ils ont tout le temps mouillé le maillot. Maintenant, tu me donnes les clés du camion pour faire l'équipe. Moi, d'une part, je suis pas entraîneur, si ce n'est depuis pupilles 13, donc.
Allez, mouille-toi un peu.
On va rester là. Après, je connais pas les joueurs qui seront aptes à jouer samedi. Donc tu me poses encore une colle, j'ai plus internet, j'ai pas l'indépendant au travail, contrairement à toi. Ça va être difficile de faire une équipe comme ça, quoi, de but en blanc. Donc je donne ma langue au chat, je laisse faire la tienne. Hein.
Et là, il y a une composition d'équipe derrière qui est un peu compliquée, puisque Pélo avait joué arrière, Staculo centre, etc. Comment Louis Hervé, je sais pas, tout le monde, là, vous composeriez comment derrière avec les joueurs restants, parce qu'avec la casse qu'il y a eu. Non, la charnière, tiens, commençons par la charnière. Qu'est-ce que tu ferais, Louis, toi, en tant que coach?
Bon, il faut que Bosque revienne à son poste.
L'ouverture, voilà. Ou la mêlée?
Ben, moi, je pense qu'il serait mieux à l'ouverture qu'à la mêlée.
Moi aussi.
Ouais, voilà. Donc, ça, c'est clair. Thomas, encore, n'a pas le. Enfin, il me semble qu'il serait mieux là qu'à la mêlée, quoi. Donc, voilà. Moi, après, je suis pour le principe que, exceptionnellement, un joueur peut jouer à un autre poste que celui où il est fait pour jouer, mais ça ne doit être que de l'exceptionnel.
Voilà.
Il faut que chaque joueur joue à son poste. Bon, je pense que Pélo, pour moi, c'est avant tout un ailier avant d'être en arrière. Voilà.
Donc tu mettras arrière qui, Walker?
Je ne sais pas, je vois pas l'effectif là, j'ai pas planché sur cette affaire. Mais bon, moi je sais pas, dans le collectif des Dragons, il y a bien Pélo, bon, la couverture profonde du terrain, on le sait, les ailiers, mais quand même, récupérer des balles comme le fait Greenshield, c'est pas quand même à la portée de tout le monde. Bon, voilà, donc moi j'ai pas d'idée préconçue sur la formation de l'équipe, mais un joueur doit en priorité jouer au poste qui est le sien, pour celui qui est le sien et pour lequel il a été recruté au Dragon Catalan.
Alors quel est le poste de ça, tiens, qui a joué ouverture?
Ça, il a été recruté pour un centre, faisons-le jouer au centre.
D'accord. Qui pour l'instant était plutôt décevant, visiblement. À l'exception
il est décevant parce que c'est un garçon qui, visiblement, vient pour être un centre de qualité. Le match, bon, il a été placé à Salford en demi d'ouverture. Il a décroché le titre d'homme du match. Bon, voilà, à Salford. Mais bon, comme je dis, c'est de l'exceptionnel. tous ici, lorsqu'on a joué, on a toujours joué à d'autres postes que celui où on préférait jouer.
Oui, mais, quand même,
mais les entraîneurs nous ont quand même rapidement remis à ce qu'était notre poste. Ou alors ils nous ont viré de l'équipe.
C'est une autre façon de voir le rugby, ouais. C'est notre philosophie du rugby. Alain Fort, je vous exprimer par rapport à la composition de l'équipe.
Moi, pour les demi, je mettrais, vu les éléments que nous avons, je mettrais Bartour Borsk en demi. Parce qu'on retrouverait des joueurs à leur place et des joueurs qui savent jouer au pied. Ce que nous savons pas faire depuis le début de la saison. Après, par contre, c'est un peu la bouteille à ancre derrière. On peut mettre Pélo au centre, on peut mettre Pélo arrière, on peut mettre Walker au centre, on peut mettre Walker arrière. Mais ça, au centre, hein. Pas ailleurs.
Moi, j'ai une petite question pour Klaus, savoir, parce que les Australiens, ils connaissent un peu. Bell, toi, tu aurais pas fait faire un peu banquette dans les tribunes? Ouais, mouille-toi, attends, Bell, il nous fait rien depuis le début de la saison. Tu aurais pas un peu fait jouer avec le 13 catalan, avec Pascal, avec Jean-Pi, là, avec Bruno Vergès?
C'est une question difficile. Bell, c'est la catastrophe depuis deux mois, il faut le dire. C'est un joueur talentueux et il a une réputation jusqu'à maintenant, tourne pas. On peut dire la même chose plus ou moins sous ça. Walker, il se monte un peu, mais bon, on attend pour voir s'il perd de manche, qu'est-ce qui va se passer. On peut se dire qu'ils n'ont pas les moyens.
Absolument.
S'ils perdent de manche et ils perdent le week-end après, ils n'ont pas le moyen. Où on va après? Où on va?
Qui on va chercher?
On va subir toute l'année.
Exactement.
On va subir toute l'année.
Et on parle des recrues.
Il faut gagner, il faut gagner à tout prix. Voilà, ouais. Voltaire, ça fait deux mois qu'il voit comment on joue. Je pense que si on joue de manche comme on a joué contre Castleford, et, voilà, ça va. C'est pas comme ça qu'on va gagner.
Je crois qu'il fait bien de dire ça, parce qu'en fait on le pense tous mais on ne le dit pas vraiment. Ça est pour l'instant transparent, à part l'exception de match à Salford. Walker n'apporte pas le trouble qu'on pensait qu'il apporterait.
Walker si. Oui, on peut pas dire ça à Walker. En défense, c'est peut-être un peu moins, mais en attaque, quand le garçon prend le ballon, ça accélère, il y a du jus. Au contraire, moi je trouve qu'on ne leur sert pas assez justement le garçon. Et qu'il faut envoyer, depuis, il faut jouer, il n'y a rien à faire. Qu'on place ça et Walker au centre, et que Thomas ouvre les vannes. Et...
On n'a plus le temps d'attendre maintenant, je crois.
Il ne faut plus attendre, c'est trop tard. Voilà.
Et puis attendez, il y a peut-être quelque chose qui va nous sauver un peu, parce qu'il y a un joker quand même, médical qui devrait venir, ou pas. Médical d'ailleurs, on ne sait pas encore. Alors, on avait lu la semaine dernière, je crois, un excellent papier d'Hervé Girette sur la venue de Gasnier. Aujourd'hui, il écrit de son contraire. Gasnier, la piste est refroidie. On ne sait plus où c'est qu'on en est. Alors, je sais que Gasnier sera là, samedi, mais il sera à Aimé Giral, quoi. Donc, il ne sera pas loin de chez nous, effectivement. Il y a même des gens sur le forum qui écrivent que Gasnier est très proche des Dragons. Bon, je pense que c'est une plaisanterie, hein. Mais enfin, voilà. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un garçon comme ça, déjà pour commencer? Et puis, le demi-déménager, je crois qu'il a signé à Underfield.
Dans les aurait signé à Underfield, ouais, a priori.
On nous balance aussi un nom d'un certain Samut, je ne sais pas qui c'est ce garçon-là, qui a eu la cheville pétée pendant deux ans, là, je ne sais pas trop quoi. Alors, écoutez, est-ce que si finalement, on ne devrait pas finir comme ça, entre nous, comme on a commencé? Voilà.
Mais le problème, c'est que si tu fais partir Mog, que Greenshield est pété pendant trois mois, tu as deux jours de moins dans le squad et pas des moindres. Et si tu bouges pas le trou, il faut pas avoir de cassé derrière encore. Hein. Parce que si tu as de nouveau de la casse, tu vas jouer avec les juniors d'IE13. Hein.
Tous les supporters, réclament à corps et à cri, tous les supporters, des joueurs français et jeunes. Et voilà, on prépare l'avenir. Et bien dans deux ans, ils seront là, les Simon, les Barthaud, les Gigot, les Gouaches. Voilà. Les Gouaches, voilà. Ouais, peut-être c'est la solution, je sais pas.
Puis des joueurs qui jouent 12 mois sur 12 tous les dimanches, donc on va y arriver. Il faut trouver une harmonie, là, c'est clair. On finit par un pronostic, peut-être, histoire de boucler la boucle.
Allez, on fait le tour de table des pronostics. Bernard, bon, Young, allez, Bernard Young.
Samedi soir.
Il faut se mouiller, là. On met 2 euros sur la table, chacun.
Je ne me mouille pas, moi, je tiens un pari qu'on va gagner. Je vais ajouter 15 points de plus pour le Dragon.
Monsieur Bousquet.
Jean-Marie.
Non, moi je suis de tout cœur les Dragons. J'espère et je souhaite qu'on gagne samedi soir. Hein. Même qu'on gagne que 2 points, mais que la victoire s'aloie et que le moral revienne et que les troupes soient au beau fixe. Voilà.
Moi je suis comme le président de la Peña, victoire des Dragons. Un seul point suffirait et je pense au bonheur de tout le monde.
Oh, bah, écoutez, évidemment. Je souhaite que les Dragons gagnent. Bon, Ulcaire a gagné à Leeds. Leeds avait 9 blessés, nous on en a moins. Donc ça devrait passer. Hein.
ça devrait passer, mais d'extrême justesse.
Monsieur...
Je vais être original. Allez, allez.
Monsieur le secrétaire général de la Fédération française de rugby. Exprimez-vous.
Victoire des Dragons, tout simplement.
Alors moi, je me mouillais carrément. 36-20 pour les Dragons.
D'accord.
On a dit qu'on... On a dit qu'on...
Klaus Perkovic.
Je vais créer le scandale. Les Dragons, évidemment.
Les sponsors.
Et on arrive au terme de l'émission. Ça fait 1h25 que nous sommes ensemble. Le temps passe très vite. On a été chouchoutés. De la bière, des pizzas, du vin, le bonheur. On va repartir, faut éviter la police, mais bon. On était très bien reçus chez Klaus Perkovic, c'était très sympa.
Alain, nous avons progressé pendant pratiquement 1h30, nous n'avons pas parlé d'arbitrage.
C'est vrai que Thierry Libère a été, mis à part les deux essais vidéo, qui prêtent à... Allez, on va arrêter là, parce que bon, mis à part les deux essais...
Et on progresse.
Et info de Louis, Ben Thaler arbitrera les Dragons samedi soir. Arrêtez de dire dimanche, que tout le monde va aller au stade dimanche. Hein. C'est samedi soir, 20h30. Et puis, Thierry Libère, Udersfield Saint-Hélens, gros match en perspective.
Oui, Julien Mascagnère. Non, il n'y est pas.
Julien Mascagnère, il est Mascagnère.
Et au point de service. Dernière chose aussi, on n'a pas parlé du site de la Fédé aussi. On n'a pas été méchant, bon, pour une fois. Hein.
Allez, ça y est, bon, là on va couper court parce que ça va.
Ce sera ça va le sujet pour la prochaine.
Voilà, allez, on va remercier les sponsors.
On remercie les sponsors, Olivier.
Comme à l'habitude, eh bien, le sponsor, il y en a un qui n'est pas loin ici, le magasin Camomille est sur tête. La maman de Thibaut Margalet qui a sponsorisé la 13e heure. Merci à Klaus de nous avoir reçus au bar du marché à Yeux sur tête. L'entreprise C2A de Régis Ribert à Perpignan. Et puis René, j'oublie quelqu'un peut-être. Et puis Willy Gouache avait
le bistrot.
Le bistrot du bœuf à Canet, Willy Gouache, qui nous a très très bien reçu mercredi dernier. Voilà, merci à tous les sponsors. Et puis Alain, à toi le mot de la fin.
Si ce n'est qu'on se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain match au domicile.
15 jours, on va laisser passer les deux matchs, là, UlKR et Udersfield. Et on se rencontrera le mercredi dans un lieu qui reste à définir, à déterminer.
Voilà, on fera en sorte de faire venir des joueurs et pourquoi pas le coach.
Oui, on a vraiment envie de rencontrer les entraîneurs.
Il ne faut pas le désespérer. Merci Klaus pour ton accueil. Un petit dernier mot justement pour le maître des lieux.
Un petit remerciement à la Fédé, à la comité d'avoir pris l'initiative d'organiser ce fameux match de PIA UTC ce week-end. C'est une belle récompense pour le dirigeant d'il y a 13 ans. Et pourquoi pas un deuxième avant la fin de la saison, ou un troisième, pourquoi pas. Merci beaucoup, c'était bien.
Merci à tout le monde, rendez-vous dans 15 jours.